Chapitre 4. Clémence ne parlant pas et restant occupée à faire des chiffres, M. de Carquebus put l'examiner. Et quoi, la femme qu'il avait là devant lui, dans ce grand fauteuil, froide, roide, affairée, avec ses yeux durs qu'il avait arrêtés nets, était la même qu'il avait vue autrefois si affable? Ah, elle n'était plus souple, la petite déesse! Cependant, ce moment de calme lui ayant permis de retrouver la première phrase de son discours, il se redressa et, rejetant sa tête en arrière, étendant son poing fermé en avant, il allait lancer cette première phrase lorsque, d'un geste sec, elle lui ferma la bouche. « Je sais ce que vous allez dire, tandis que vous ne savez pas pourquoi je vous ai fait appeler. C'est donc à vous de m'écouter. Ne perdons pas notre temps, je ne suis pas libre ce matin. »« Ah, mais !» « Ah, mais !» Permettez, tout ce que vous avez à dire, je l'écouterai, et probablement même j'y répondrai, mais pas en ce moment. Nous avons des affaires plus urgentes à traiter à cette heure. » « Et moi, je soutiens ?»« Des divers renseignements et des documents que j'ai aux mains, » dit-elle en attirant une liasse de papier devant elle, « il résulte que vous avez vendu la coupe de bois du Triège de la Lande, moyennant 32 000 francs, celle du Grand Fayard pour 24 000 francs, celle de la Marobuée pour 17 000 francs. Est-ce vrai ? Est-ce que vous vous moquez de moi ? S'écria M. de Carquebus stupéfait. De plus, continua-t-elle, sans paraître entendre cette exclamation, vous avez vendu 3 chevaux de chasse, 5 carrossiers, 8 juments poulinières et leurs poulains, 4 chevaux de service, 14 chiens de l'équipage. Elle changea de papier pour en prendre un autre, sur lequel étaient écrites des notes au crayon. De plus, vous avez vendu encore l'argenterie du dressoir de la salle à manger, pesant environ 22 ou 23 kilogrammes et valant au poids 4 400 ou 4 600 francs, les faïences du parloir. De plus, vous avez vendu encore... Mais il ne la laissa pas continuer. Le premier mouvement de surprise passé, il avait repris son assurance et, avec elle, son insolence ordinaire. « Ah ça, ma petite dame » dit-il en tapant un vigoureux coup de poing sur le bureau. « Est-ce que vous vous figurez bonnement que je vais me laisser lanterner comme ça pendant 2 heures ? Vous m'interrogez, vous ? J'ai cet honneur. »« Fais peut-être erreur, » dit-il d'un ton goguenard. Mais n'est point appris que vous soyez devenu propriétaire de la terre de Rudemont. Pardonnez-moi ma distraction, dit-elle poliment. J'aurais dû, j'en conviens, vous dire en quelle qualité je vous adresse ces questions. Monsieur le marquis de Rudemont, vous ne l'ignorez pas, est en ce moment dans un assez mauvais état de santé. Les affaires le fatiguent. Je suis donc chargé par lui de le remplacer. C'est donc en son nom que je vous parle. Vous avez sa procuration, peut-être ? Mon Dieu, non. Nous n'avons point encore eu le temps de prendre les mesures légales nécessaires pour régulariser mes pouvoirs. Eh bien alors, pourquoi voulez-vous que je vous réponde ? Pour vous éviter la peine d'aller à Condé, vous expliquez avec M. Pioline, l'avoué de M. le Marquis, qui serait chargé, à ma place, d'examiner votre compte si nous ne pouvions pas nous mettre d'accord. Préférez-vous avoir affaire à M. Pioline ? Je n'insiste pas, je lui envoie ses pièces et il vous écrira. Peut-être un homme de loi sera-t-il moins facile sur cette reddition de compte. Instantanément, M. de Carquebus perdit son assurance et son insolence. Ce Pioline lui était profondément antipathique. Vous devez comprendre, continua Clémence, qu'ayant reçu des sommes d'argent pour M. le Marquis, vous devez en rendre compte. De plus, il y a une partie de votre administration à examiner. Je suis disposée à le faire avec vous d'une façon amiable. Mais il y a une chose que je ne puis pas, ce serait de m'incliner devant votre refus. Tout à l'heure, je vais être obligée de rapporter à Monsieur le Marquis ce qui se sera dit et passé entre nous. Tout ? Tout ce qui se rapporte à ce compte, bien entendu. Si je lui dis que vous m'avez refusé une explication, je sais d'avance quelle sera sa réponse, Pioline. Et alors, il me faudra bien envoyer ses pièces à l'avoué. Mais, ma petite déesse ! Monsieur de Carquebus ! une reine outragée n'eût pas mis plus de dignité dans son exclamation. Quant à M. de Carquebus, il avait complètement changé de ton et d'attitude. Le vengeur redoutable qui était entré, animé d'un juste ressentiment, le gouailleur insolent, était remplacé par un homme de composition facile, tout plein de bonhomie. Puisqu'elle annonçait qu'elle voulait examiner ses comptes d'une façon amiable, il fallait l'écouter. Cela valait mieux qu'une discussion avec cet avoué au caractère quinteux. Était-ce ainsi que nous devions nous revoir après une si longue absence ? Dit-il en la regardant d'un air passionné. À qui la faute ? Moi qui accourais près de vous, avec des paroles de tendresse dans la bouche ? Vraiment ? Sans doute, j'étais partagé entre la colère et la tendresse. Après un départ comme le vôtre, il était bien permis. Qu'était-il permis, je vous prie ? Je veux dire... Dites, car aussi bien je comprends que tant que vous n'aurez pas exhalé cette colère dont vous parlez, je ne pourrai rien obtenir de vous. Vous avez toujours été un homme violent. Passionné. Passionné, si vous voulez, et les années ne vous ont pas changé. Pas à votre égard, en tout cas. Alors, pourquoi cette colère ? Comment ? Vous me le demandez ? Mais sans doute. Je vous aimais, n'est-ce pas ? Je vous avais demandé d'être ma femme. Disant cela, il se rapprocha de Clémence. Et c'est à ce moment même que vous êtes partie avec le marquis. Et vous n'avez pas craint. Il allait s'emballer dans son discours qui lui revenait à la mémoire quand elle l'arrêta. « Je n'ai pas craint, » dit-elle. Je persiste dans mon mot et je dis « Ô femme volage, comment n'avez-vous pas craint de porter la désolation dans le cœur d'un homme sensible qui vous adorait ? Comment n'avez-vous pas rougi ?»« Raisonnons, » dit-elle en l'interrompant. « Connaissez-vous l'histoire de Judith et d'Holoferne ? Oui, n'est-ce pas ? Eh bien, que pensez-vous de Judith ? Je n'ai pas d'idée là-dessus, » répondit-il avec impatience. De l'avis de tous, Judith est une héroïne, presque une sainte. Elle s'est sacrifiée pour son pays, elle a immolé sa vertu à son patriotisme. Eh bien, ce que Judith a fait pour son pays, je l'ai fait pour vous. Oh, par exemple. Oui, monsieur, je me suis sacrifiée pour vous. Et quand je reviens, croyant avoir mérité votre reconnaissance... Ma reconnaissance ? Disons mieux votre respect, je vous trouve la menace à la bouche. Vous savez, s'écria-t-il, qu'il ne faut pas me prendre pour un jobard. Ça ne réussit pas avec moi, ces balançoires-là. Je suis un gaillard qui ne se laisse pas enjôler par les femmes, si malignes qu'elles soient. Si vous êtes fine, je ne suis pas une bête. Croyez-vous que je veuille vous enjôler, comme vous dites ? Il hésita un moment. Évidemment, s'il répondait d'une façon affirmative, elle se refusait à aller plus loin. Il n'apprenait pas comment elle méritait son respect, et de plus, elle pouvait très bien ne plus vouloir traiter à l'amiable cette question des comptes qui, pour lui, avait bien son importance. D'un autre côté, l'amour qu'il avait éprouvé pour elle autrefois, et qui, pendant son absence, s'était singulièrement affaibli, venait de se réveiller. Elle était plus charmante qu'elle n'avait jamais été, plus provocante, avec quelque chose d'impérieux qu'elle n'avait pas naguère et qui lui donnait une séduction nouvelle. « Je n'ai jamais entendu soutenir, dit-il en biaisant, que vous étiez une enjôleuse. Ce n'est pas un mot que j'appliquerais à une personne telle que vous. Mais vous avez dit que je vous devais de la reconnaissance et même du respect. Voilà ce que je vous demande de m'expliquer. » Puisque nous sommes sur cette question. C'est ce que je veux bien faire. Mais avant, voyez, je vous prie, si cette porte est fermée. Car de ce que je vais vous dire dépend votre fortune et dépend aussi ma vie. Si ce secret était connu d'un autre que vous, tous mes efforts, tous mes sacrifices depuis 2 ans seraient perdus. Il se leva et, marchant sur la pointe des pieds, il alla voir si la porte de l'appartement était fermée. Il fit un signe à Clémence pour lui dire qu'elle l'était. « Et l'autre ? » dit-elle en montrant celle qui ouvrait sur l'entrée. Celle-là l'était aussi. Il revint vivement vers Clémence et, en se rasseyant, il approcha encore son fauteuil de celui qu'elle occupait. Alors elle le regarda longuement et, levant la main au ciel dans un geste mélancolique, « Me justifier, dit-elle. Il faut que je me justifie, et c'est vous, vous, monsieur de Carquebus, qui m'y obligez par vos soupçons. C'est là ma récompense. Depuis 10 ans, quel a été le but de votre vie ?»« Mais... »« Devenir propriétaire de Rudemont, n'est-ce pas ? Recueillir l'héritage d'Arthur, comme vous disiez ?»« Assurément. » Eh bien, c'est pour que cet héritage ne vous échappe pas que je me suis résignée à partir avec le marquis. Voilà qui est un peu fort.